Jean-Roger Millon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 25 janvier 2023. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken achève ce jeudi en Angola sa tournée africaine après avoir rencontré le président João Lourenço.
Nous demandons dans cette discussion avec le président et le gouvernement angolais une rapport de la nécessité que le processus démocratique en Angola ne recule pas.
L'opposant angolais Abel Chivukuvu nous donnera sa lecture de la visite du chef de la diplomatie américaine à Luanda. Au Nigeria, deux attaques dans l'état du plateau font au moins 50 morts. Au Burkina Faso, enlèvement d'un célèbre avocat, Guy Hervé Kam, leader d'une organisation de la société civile. Guerre en Ukraine, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit d'urgence après le crash d'un avion militaire russe. Et en sport, ne manquez pas notre journal de la CAN. Dans un instant, pause de deux jours avant les huitièmes de finale, samedi. Janvier 2024, le journal de la CAN pour débuter cette édition. On connaît désormais tous les 16 pays qualifiés pour les huitièmes de finale et les oppositions de cette phase. Direction Abidjan pour retrouver nos envoyés spéciaux Bagassi Koura et Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Effectivement, les deux derniers groupes ont bouclé hier les matchs de la phase de poule. Dans le groupe E, le Mali et la Namibie se sont neutralisés 0-0. Même score entre l'Afrique du Sud et la Tunisie. Conséquence au classement, le Mali finit leader du groupe E avec 5 points devant l'Afrique du Sud, 4 points. De même que la Namibie, 4 points. Le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie se qualifient donc pour les huitièmes. La Tunisie, elle, est éliminée avec 2 points. Dans la poule F, la République démocratique du Congo et la Tanzanie ont aussi fait match nul, 0-0, tandis que le Maroc a battu la Zambie 1-0 pour consolider sa place de leader avec 7 points. Les Léopards de la RDC, 2e, et les Lions de l'Atlas sont ainsi qualifiés pour les huitièmes. Le compte-rendu de la rencontre Maroc-Zambie qui a aussi qualifié la Côte d'Ivoire par ricochet avec notre envoyé spécial à San Pedro, Amin Birouk.
Les supporters ivoiriens, toutes confessions confondues, peuvent dire merci au Maroc. En effet, la victoire ce mercredi des Lions de l'Atlas devant la Zambie sur le score d'un but à 0 a permis aux éléphants de décrocher la dernière place qualificative pour les huitièmes de finale de la CAN. Un résultat qui permet également aux Marocains de finir en tête de leur groupe avec 7 points sur 9 possibles. Pourtant, la journée n'avait pas bien commencé pour les coéquipiers de Romain Saïs, surpris par la sentence de la commission de discipline de la CAF concernant le sélectionneur Walid Regragui. Ce dernier est suspendu pour 4 matchs, dont 2 avec sursis, après l'altercation qu'il avait eue avec le capitaine de la RDC, Chancel Mbemba, dimanche dernier. Résolus à offrir une victoire à leur mentor, les Lions de l'Atlas ont pris le match par le bon bout, poussant les Zambiens dans leur dernier retranchement. Leurs efforts étaient couronnés de succès à la 37e minute par le capitaine d'un soir, Hakim Ziyech. Au coup de sifflet final, l'euphorie des fans de la Côte d'Ivoire se confondait avec la joie mesurée des Marocains qui donnent rendez-vous au Bafana Bafana d'Afrique du Sud mardi prochain dans un match couperet comptant pour les huitièmes de finale. Depuis San Pedro, Amin Birouk pour la VO Afrique.
Merci Amine. Justement, vous l'avez dit, cette victoire marocaine profite du même coup à la Côte d'Ivoire qui arrache son ticket en tant que dernier meilleur troisième. Les Ivoiriens ont laissé exploser leur joie dans les rues d'Abidjan au coup de sifflet final de Maroc-Zambie. Certains se sont exprimés au micro d'Alain Amonti.
Après ce match, tout ce que je veux dire, c'est merci. Le grand pays, c'est le Maroc, d'avoir gagné à ce tennis pour un qualifié.
On est pas très désespéré. On n'avait même pas d'espoir, mais la fête était bonne. On est très contents, nous sommes dans la joie.
Nous sommes fiers de Marocains, nous sommes qualifiés pour la huitième de finale. Allez les éléphants, la CAN c'est chez nous.
L'Algérie championne 2019, la Tunisie mondialiste, de même que le Ghana mondialiste, éliminé dès le premier tour. Le Cameroun qui arrache son ticket au forceps et la Côte d'Ivoire qualifiée presque grâce au Maroc. Cette phase de poule a offert tant de sensations. Analyse d'un premier acte palpitant de cette CAN 2023 avec Bonas Fossio, journaliste camerounais.
C'est fou ce qu'on a pu vivre et moi en tant que Camerounais, je vous parle pour l'expérience que je vis, c'est quelque chose d'inédit. Et donc ça montre aussi que la Coupe d'Afrique des Nations est le plus gros événement, toutes catégories confondues sur le continent. Ce n'est plus comme à l'époque où on avait des évidences. On savait que dans le dernier carré, on aura toujours les mêmes. Donc maintenant, on a une CAN à 24 équipes, ce qui fait qu'en plus des majors, comme l'Égypte, comme le Cameroun, comme le Ghana, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou encore la Tunisie, le Maroc. On a aussi d'autres pays qui peuvent arriver, la Guinée équatoriale qui fait une performance incroyable. Et donc ça signifie que non seulement tous les pays se préparent maintenant pour cette CAN 24 comme pour aller à la plus grande guerre de tous les deux ans, mais aussi le symbole de ce que le football africain, à mon avis, est en train d'évoluer. Le niveau s'élève dans tous les pays à travers le continent africain.
Bonas Fotio, journaliste camerounais. On connaît désormais le tableau complet des huitièmes de finale. Bagassi Koura fait le point.
Dès ce samedi 27 janvier, l'Angola affronte la Namibie au stade de la paix de Boaké. Juste après, à 20h, le Nigeria fait face au Cameroun dans un classique du football africain. Le dimanche 28 janvier, la surprenante Guinée équatoriale reçoit la Guinée au stade Alassane Ouattara. Et à 20h, l'Égypte fait face à la RD Congo. Lundi, pour le premier huitième de finale de son histoire à la CAN, la Mauritanie défie le Cap-Vert à 17h avant le gros choc ouest-africain attendu à 20h entre le champion en titre, le Sénégal, et la ressuscité Côte d'Ivoire. Les derniers matchs des huitièmes de finale ont lieu mardi. Le Mali fait face au Burkina Faso à 17h et le Maroc boucle ses huitièmes de finale contre l'Afrique du Sud.
Yacouba Ouidraogo, Bagassi Koura, Abidjan, VOA Afrique.
Jean-Roger Billon en direct de Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le reste du monde. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en Angola, dernière étape de sa tournée dans 4 pays africains. Le point avec Nathalie Barge.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été reçu ce matin par le président João Lourenço qui a rencontré Joe Biden à la Maison Blanche il y a 2 mois à peine. Les deux pays se sont rapprochés ces dernières années. Les États-Unis ont investi un grand projet d'infrastructure reliant la République démocratique du Congo et la Zambie via le port de Lobito en Angola. Le récent retrait de l'Angola de l'OPEP sur fond de désaccords sur les quotas de production pétrolière a été évoqué, tout comme les efforts de l'Angola pour mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Avant l'Angola, Anthony Blinken s'est rendu au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Sa visite en Afrique intervient dans le sillage de celle du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Washington considère Pékin comme son principal rival stratégique et se présente comme un meilleur partenaire pour l'Afrique que la Chine, qui finance de grands projets à coups de prêts.
Pendant sa visite en Angola, Anthony Blinken a estimé que le moment est venu d'accentuer les efforts pour faire avancer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a notamment appelé à accentuer les efforts engagés par l'Angola et le Kenya pour travailler à une paix durable. Après un entretien à Luanda, donc avec le président João Lourenço, présenté comme médiateur essentiel bénéficiant de la confiance de toutes les parties. Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine a estimé que les accusations de génocide des Palestiniens portées par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice n'empêchent pas les États-Unis, qui les jugent infondées, de continuer à travailler avec l'Afrique du Sud. La CIJ doit rendre demain vendredi sa décision sur des mesures urgentes réclamées par l'Afrique du Sud. La plus haute juridiction de l'ONU pourrait potentiellement ordonner à l'État hébreu d'arrêter sa campagne militaire à Gaza, déclenchée par l'attaque massive du Hamas le 7 octobre. Cela dit, les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 s'intensifient dans la ville de Mouezo, dans l'est de la RDC, où des civils ont été tués dans les affrontements. Un obus de mortier a atteint ce jeudi en milieu de journée une zone résidentielle, provoquant la mort de plus d'une dizaine de personnes, selon un décompte fait par les habitants sur place. À ce stade, l'origine du tir n'est pas déterminée. Dans le centre-nord du Nigeria, au moins 55 personnes ont été tuées dans 2 nouvelles attaques, mardi et mercredi, dans l'état du Plateau. Le point avec Rosine Monizero.
En dépit d'un couvre-feu imposé mardi dans le district local de Mangou, des écoles, des lieux de culte et des maisons ont été incendiés dans ces 2 attaques. Une organisation regroupant des membres de l'ethnie Mwagavul majoritairement chrétien, a accusé des éleveurs musulmans peuls d'avoir attaqué le village de Kwaraslalek et tué une trentaine de personnes. Une autre organisation musulmane a déclaré que des lieux de culte et des écoles confessionnelles ont été attaqués et ont fait 25 morts. Deux camps de déplacés ont été mis en place à Mangou, a déclaré Nourouddin Hosseini Magadji, président local de la Croix-Rouge. Le gouverneur de Plateau a décrété le couvre-feu mardi après un nouveau différend entre un éleveur et des résidents. L'état du Plateau, situé sur la ligne de démarcation dans le nord, majoritairement musulman, et le sud, majoritairement chrétien, est en foyer de violence intercommunautaire. Près de 200 personnes ont été tuées à Noël lors de raids sur des villages majoritairement chrétiens.
Au Burkina Faso, l'avocat et homme politique Maître Guy Hervé Kam a été enlevé selon son parti. Le mouvement SENS indique que son coordonnateur national a été enlevé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à l'aéroport international de Ouagadougou en provenance de Bobo-Dioulasso, seconde ville du pays de Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Le mouvement SENS de l'avocat Maître Guy Hervé Kam, citant des témoins sur place, affirme que son coordonnateur a été enlevé par des hommes en civil et embarqué dans un véhicule banalisé vers une destination inconnue. Le mouvement SENS explique qu'en tout état de cause, il tient les autorités de la transition responsables de cette situation et les exhorte à relâcher sans délai Maître Kam ainsi que tous les autres citoyens civils et non civils enlevés en dehors de toute procédure judiciaire. Mais les proches du pouvoir parlent plutôt d'interpellation, mais pas d'enlèvement comme le parti veut le faire croire. Pour le parti politique, il est nécessaire et urgent de tout mettre en œuvre afin que la lumière soit faite sur cet énième enlèvement extrajudiciaire. Le Ballet Citoyen, une organisation de la société civile dont l'avocat est un ancien porte-parole, a aussi appelé à sa libération immédiate et sans condition et dit aussi tenir les autorités de la transition pour responsables de toute atteinte à son intégrité physique et morale. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le principal leader de l'opposition zimbabwéenne, Nelson Kamisa, a claqué la porte de son parti, la Coalition des citoyens pour le changement. Deux ans, jour pour jour, après sa création, Nelson Kamisa estime que la CCC a été détournée par la ZANU-PF au pouvoir. Le parti CCC a remporté 103 des 280 sièges de la principale chambre du Parlement lors des élections générales de l'année dernière.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce jeudi en urgence à la demande de Moscou qui accuse l'Ukraine d'avoir abattu un avion de transport militaire russe et tué tous ses passagers, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens devant être échangés. Eric Maniratiza.
L'avion s'est écrasé hier à 45 km de la frontière avec l'Ukraine dans la région russe de Belgorod. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un appareil chutant presque à pic avant une grosse explosion au sol accompagnée de flammes et de fumée noire. D'après Moscou, Kiev savait que les prisonniers seraient amenés en avion à Belgorod puis à un point de rendez-vous à la frontière. Les 65 prisonniers ukrainiens, les 6 membres d'équipage et 3 militaires russes présents à bord ont péri selon l'armée russe. La Russie affirmait que les forces ukrainiennes ont lancé 2 missiles dans le système de défense antiaérien pour abattre le transporteur militaire. Kiev n'a confirmé ni infirmé que l'appareil a été abattu par des armes ukrainiennes, comme le soutient Moscou. Le président ukrainien a demandé l'ouverture d'une enquête internationale.
Bagdad et Washington vont lancer des discussions en vue d'aboutir à un calendrier précis sur la durée de la présence de la coalition internationale anti-djihadiste en Irak et d'initier une réduction progressive de ses effectifs, a annoncé ce jeudi la diplomatie irakienne. Dans un communiqué, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a confirmé le début dans les prochains jours des réunions de ses groupes de travail. Washington déploie environ 2500 soldats en Irak et près de 900 en Syrie engagés avec la coalition internationale qu'elle a lancée en 2014. Londres et Washington ont annoncé aujourd'hui des sanctions contre 4 responsables des rebelles houthis du Yémen qu'ils estiment impliqués dans l'organisation des attaques de navires en mer Rouge. Parmi les 4 responsables sanctionnés figurent Mohamed Al-Atifi, ministre de la Défense des rebelles, ou encore Mohamed Fadl Abd al-Nabi, commandant des forces navales houthis détaille le communiqué britannique. Jean-Roger Billon à ce micro, je vous retrouve dans quelques instants pour la page magazine de cette session d'information. À tout à l'heure.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken achève ce jeudi sa tournée africaine en Angola où il a été reçu par le président João Lourenço qui a rencontré Joe Biden à la Maison Blanche il y a 2 mois. Washington considère Pékin comme son principal rival stratégique et se présente comme un meilleur partenaire pour l'Afrique que la Chine qui finance de grands projets d'infrastructures à coups de prêts. Idriss Fall a joint à Luanda l'opposant Abel Chivukuvu, leader du parti PRA-JA, servi l'Angola.
Nous avons, en tant que membres de l'opposition et de la société civile, envoyé une lettre à M. Blinken, considérant que c'est très bien la visite ici en Angola, mais nous demandons que dans cette discussion avec le président et le gouvernement angolais, il renforce la nécessité que le processus démocratique en Angola ne recule pas, comme il est en train de succéder. Aussi, qu'il y ait une préoccupation avec des problèmes des abus des droits humains, avec des problèmes des élections locales, qu'on a depuis longtemps espéré qu'ils ne se produisent pas. C'est-à-dire, nous sommes d'accord avec la visite et nous félicitons. Mais de toute façon, nous pensons que, étant les États-Unis un pays démocratique, doit encourager les autorités angolaises à suivre le chemin de la démocratie, du respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, et surtout qu'on aille des élections locales en Angola avant les élections générales de 2027.
La Chine a accaparé une bonne partie de l'économie, a construit toutes les routes. Est-ce que vous pensez que les Américains n'arrivent pas un peu tard pour bousculer la Chine en Angola?
La Chine a été un facteur pendant le début du processus de reconstruction nationale. Mais aujourd'hui, la Chine est un peu discréditée à cause de la qualité des processus, des infrastructures qu'ils ont montées. Tout est en mauvais état. C'est-à-dire qu'il y a un certain discrédit. Et surtout parce qu'aujourd'hui aussi, la grande partie de notre budget national annuel, 60%, va pour le paiement de dette à la Chine. C'est-à-dire, le climat envers la Chine n'est plus positif. Et les États-Unis ont l'opportunité, s'ils veulent, de bâtir une relation de haut niveau. Le plus important, c'est qu'ils sachent que ce n'est pas seulement les affaires, ce n'est pas seulement le gouvernement, ce sont aussi les principes de la démocratie, des droits des hommes, le bonne gouvernance, et surtout savoir écouter la voix de la société civile angolaise.
Le MPLA était plutôt l'ennemi des États-Unis, et aujourd'hui, on a vu João Lourenço était encore il y a 2 mois ici même aux États-Unis. Qu'est-ce qui a changé dans la relation?
Dans les relations des États, il n'y a pas des ennemis permanents, il n'y a pas des amis permanents, il y a des intérêts. Maintenant, il y a les intérêts des États-Unis du point de vue géostratégique dans notre région australe, mais il y a aussi l'intérêt de l'Angola de pouvoir avoir la relation avec la majeure puissance du monde. C'est assez normal. Le plus important, c'est que les États-Unis n'oublient pas ces principes pour la démocratie et pour le bien de l'homme. C'est ça le plus important pour nous. Les affaires, on peut faire, ça termine. Mais les valeurs et la nature du processus démocratique, ça termine.
L'opposant angolais Abel Chivukuvu, leader du parti PRA-JA, servit l'Angola.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président tchadien de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a été reçu hier à Moscou par le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, qui promet d'aider le Tchad à stabiliser la situation dans le pays. Le général Déby dit être venu en tant que pays ami, un pays frère, un pays souverain qui veut renforcer ses relations avec un pays ami. Que pensent les Tchadiens de cette visite de Mahamat Idriss Déby en Russie? Écoutons leur réponse au micro de notre correspondant André Kodmajinga.
Cette visite est beaucoup plus d'intérêt stratégique parce que avec les élections futures qui se pointent, Mamad Kaka, déjà désigné comme candidat du MPS, est à la recherche des alliés. Et comme la communauté internationale l'interdit déjà de se présenter, il est parti en Russie, tout en sachant que la Russie est à couteau tiré avec l'OTAN. Il cherche des alliés parce que quand la communauté internationale vouloir imposer des embargos, à ce moment, la Russie va répondre favorablement pour soutenir Mamad Kaka. Et d'autres intérêts stratégiques est le fait que la population tchadienne, qui déjà considère la France comme la source de ses problèmes, cherche maintenant à tisser des relations avec la Russie pour chercher à chasser la France du Tchad. Et la Russie profite de cette faiblesse ou de ses intentions du peuple tchadien pour se positionner, notamment avec l'augmentation du quota des étudiants tchadiens en Russie. Donc je pense que ce déplacement est beaucoup plus d'intérêt stratégique et vise beaucoup plus à sécuriser la position du président de la transition.
C'est vraiment un grand plaisir pour moi de voir mon président aller vers un leader qui a déjà, n'est-ce pas, compris le système dans lequel vit l'Afrique. Alors, imaginez même en regardant leur image, mon président et le président de la République du Tchad dégagent déjà de l'énergie. Et moi, je suis fier. S'ils peuvent échanger sur la question sécuritaire, et sur la question en termes de développement, et ça va beaucoup plus m'intéresser. Avec un partenaire idéal, c'est ce que nous les Africains et notamment nous les peuples tchadiens on attend. Si le président de la transition veut gagner la confiance de la population tchadienne, il n'a qu'à changer un peu le système pour mettre en confiance, n'est-ce pas, le peuple tchadien.
C'est évidemment politique pour la France et pour la Russie et surtout pour le régime de Niamey. Il y a le côté sécuritaire. La Russie est en Centrafrique, en Libye, au Niger et au Soudan. Le Tchad est entouré et il y a des rébellions à l'extrême nord et des rébellions naissantes. Au sud, avec la Centrafrique, Faustin Théogra qui craint sa déstabilisation à partir du Tchad. Mamad Idriss Déby prend le devant pour montrer patte blanche à Poutine pour qu'il ne puisse pas l'unir.
Notre correspondant André Kodmajinga.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Bénin, la question de la révision de la Constitution tient une place de choix dans les discussions, tant au plan politique que dans la rue. Des partis d'opposition soupçonnent Patrice Talon d'avoir enclenché en sourdine le processus pour une révision taillée sur mesure de la loi fondamentale du pays. Qu'en est-il réellement? Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Genève Ferradandé.
Retouchée en 2019, la constitution béninoise pourrait subir une nouvelle modification selon certains partis politiques. Ils y voient une volonté à peine voilée de Patrice Talon à rester davantage au pouvoir. La question sur la révision de la constitution a été évoquée par le président de l'Assemblée nationale lors d'une réunion des présidents des institutions de la République. Le parti Les Démocrates, à travers son secrétaire national de la communication, dit non à toute intrusion, quelles que soient les raisons.
C'était non catégorique à la révision opportuniste de notre constitution qui ouvrirait la voie à un troisième mandat. Le parti Les Démocrates ne trahira jamais le peuple béninois. Il ne participera à aucune manœuvre de révision constitutionnelle qui ferait le lit à un troisième mandat ou à un troisième mandat déguisé.
Sur la liste des contestataires, il y a également les partis politiques, la Nouvelle Force Nationale et la Grande Solidarité Républicaine. Selon Apollinaire Avoignon, la révision de la constitution n'est pas une urgence. Il y a tant à faire si le chef de l'État est préoccupé par le bien-être du peuple, a-t-il souligné.
Nous disons tous non à la révision opportuniste de la constitution. Nous disons non au troisième mandat. Nous disons non à un démantèlement des fondamentaux de notre République. Les Béninois n'ont pas besoin d'une révision de constitution avant 2026. Par contre, les Béninois attendent des actions susceptibles de favoriser l'ouverture des frontières bénino-nigériennes, la gouvernance apaisée, sans armes à feu contre les populations déjà meurtries. Les Béninois espèrent la libération des prisonniers politiques politique et l'arrêt des poursuites politiques et le retour des exilés.
Mais pour l'acteur politique Bertin Corvi, la constitution béninoise comporte des injustices qu'il est nécessaire de corriger. Pour lui, le retour à l'étage devient une nécessité. Il explique.
J'ai toujours estimé que c'est injuste, ce n'est pas démocratique, que de jeter à la poubelle tout Béninois qui a son 10 ans révolu. C'est pas normal, ça c'est pas une démocratie ça.
Sur la question, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Houlot, appelle à faire preuve de discernement et à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation.
La constitution a prévu les choses auxquelles on ne peut pas toucher, à moins d'avoir une nouvelle constitution. D'abord, dans le texte même de la constitution, il est dit qu'on ne peut pas toucher ni à la forme républicaine, ni à la laïcité de l'État. La Cour constitutionnelle, dans sa décision de 2010, a ajouté qu'il faut respecter la limitation à deux du nombre de mandats et qu'il faut respecter la limite d'âge de 40 ans minimum, soit 10 ans maximum pour être candidat à l'élection présidentielle.
Face aux accusations d'une révision opportuniste, le porte-parole du gouvernement a tenu à apaiser, selon Wilfred Léandre Rombédi, Patrice Talon s'en ira en 2026.
La certitude que nous avons aujourd'hui, toutes choses restant égales par ailleurs, c'est que Patrice Talon, en 2026, il a fini. Et il a réitéré, il n'y a pas longtemps, ses deux mandats au Bénin. On a fait une révision de la Constitution en 2019. Et contrairement à ce que nous avons souvent observé en Afrique, dans cette constitution révisée, le président Patrice Talon a fait mettre que nul ne peut de sa vie effectuer plus de deux mandats présidentiels. Qu'ils soient consécutifs ou non, vous avez droit à deux mandats, pas plus.
Et il faut dire que dans un souci de décrispation de la situation sociopolitique, le chef de l'État a entamé des rencontres avec les groupes parlementaires. Au menu des échanges, la relecture du code électoral afin de corriger tout ce qui pourrait empêcher des élections inclusive en 2026. De Cotonou, Ginette Fleur, dans les pauvres au Afrique.
L'ancien président Donald Trump, probable candidat républicain à la présidence, menace de torpiller un accord qui libérerait 106 milliards de dollars de dépenses d'aide pour l'Ukraine, Israël et Taïwan et qui renforcerait les règles d'immigration sur lesquelles la Maison-Blanche et les sénateurs des deux partis ont travaillé pendant des mois. Le chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Wida-Kuswara, a réalisé ce reportage relaté par Gabi Dorsil.
Soutenu par des électeurs qui considèrent l'immigration comme la question la plus importante dans la campagne de 2024, l'ancien président Donald Trump a remporté la primaire du New Hampshire et est favori en Caroline du Sud.
Nous avons des millions et des millions de personnes qui entrent illégalement dans notre pays. Ils viennent de prisons et d'institutions psychiatriques.
Ces deux premières victoires dans l'Iowa et le New Hampshire devraient inciter Donald Trump à faire pression sur les législateurs républicains pour qu'ils évitent tout compromis sur l'immigration. La semaine dernière, il a déclaré sur les réseaux sociaux que les républicains ne doivent pas accepter un accord sur les frontières s'ils n'obtiennent pas tout ce qui est nécessaire pour mettre fin à ce qu'il appelle une invasion de plusieurs millions de personnes. La Maison-Blanche et les sénateurs des deux partis ont travaillé pendant des mois pour trouver un accord qui fournirait 106 milliards de dollars d'aide à la sécurité pour l'Ukraine, Israël et Taïwan. Les républicains insistent pour y inclure des fonds pour sécuriser la frontière sud et renforcer les règles d'immigration. La semaine dernière, le président Joe Biden a émis le vœu que cet accord soit adopté au moins par le Sénat.
La question qui se pose maintenant est celle du président de la Chambre de représentants et des républicains de la Chambre. Sont-ils prêts à agir, eux aussi?
Les militants pro-immigration sont pessimistes. Lia Parada, responsable de la défense des droits de l'homme au sein du groupe The Immigration Hub, jointe via Skype.
Les républicains du Congrès ne sont pas prêts à mettre sur la table des politiques de bonne foi qui mettent en place un traitement humain et ordonné à la frontière et qui conservent l'asile. Au lieu de cela, nous voyons les républicains d'extrême droite dominer le débat, y compris l'ancien président Trump.
La question de la frontière enflamme la base républicaine et l'adoption d'un projet de loi que les démocrates pourraient considérer comme une victoire pourrait nuire à la communication des républicains en cette année électorale. Norman Ornstein, membre émérite de l'American Enterprise Institute, joint via Skype.
Ils ne veulent rien faire qui puisse profiter à Joe Biden et retirer cette question de la frontière des thèmes de campagne en 2024.
Alors que les guerres à Gaza et en Ukraine continuent de faire rage, la politique étrangère est devenue une préoccupation majeure des Américains cette année. Selon un sondage AP Knox Center, 60% des Américains estiment que la politique étrangère devrait être une priorité pour 2024, contre 41% l'année dernière. 35% des personnes interrogées citent l'immigration comme leur principale préoccupation, soit une augmentation de 27%.
Diffusé partout en Afrique francophone sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le monde aujourd'hui sur VOA.